Vous êtes sur RTL.
Il est 8h42, dans quelques instants nous serons avec Laurent Gérard, mais tout de suite c'est notre revue de presse, lue, décortiquée et préparée pour nous ce matin par Isabelle Choquet.
Et dans les journaux ce matin, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, mais alors en bouteille d'eau Yves, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on a fêté Noël, la nouvelle année, entre les deux on a fêté l'entre-deux, oui. La trêve des confiseurs, les vacances, le bon trimestre du petit, bref, tout ce qui est fêtable, on a trinqué, retrinqué, à la tienne, ah, y a marée basse, allez c'est ma tournée. Il est temps de dire stop et de passer janvier au sec. Vous aussi, relevez donc le défi du Dry January. Un challenge venu de Grande-Bretagne, vous voyez le concept, hein, passer tout janvier sans boire. Enfin, entendons-nous, sans boire d'alcool. Les Frenchies sont de plus en plus nombreux à s'y mettre. Dans Le Parisien aujourd'hui, on suit Jean-Louis, la cinquantaine, bourguignon, père de famille. Pas alcoolique, hein, mais le genre qui aime les bonnes choses. Il a posé son dernier verre de vin blanc hier à 12h01 précisément. Et c'est parti pour un mois. Pas forcément à l'eau plate, hein, on reste festif. Jean-Louis, son truc, c'est le mojito sans alcool. C'est super bon, dit-il. C'est frais et ça me permet aussi de ne pas paraître, disons, ridicule. Car aujourd'hui encore, ne pas boire suscite des réflexions. Oui, pas facile d'être sobre chez les Gaulois. Mais Jean-Louis a déjà testé au mois de novembre et il confirme les retombées sont immédiates. Il y a moins de fatigue, moins de difficultés à s'endormir, moins d'essoufflement. On perd du poids. Bref, votre corps vous dira merci. Vos enfants auront une autre vision de l'alcool. Et puis surtout, Jean-Louis cite la première gorgée de bière de Philippe Delerme. Quand vous reprenez une bière ou un verre de vin un mois après, vous l'appréciez beaucoup, beaucoup plus. Allez, on n'est que le 2, il n'est pas trop tard pour s'y mettre.
Alors nous sommes le 2 et c'est parti aussi pour le prélèvement à la source. On vous en parle largement ce matin. Et puis bien entendu cette question, et si ça buguait ?
Impossible, le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin le répète depuis des semaines, ça va passer comme une lettre à la poste. Il est confiant, super confiant. Un peu plus sans doute que son ministère, puisqu'on apprend dans le Canard Enchaîné que Bercy avait lancé un appel d'offres auprès de boîtes de com pour plancher sur un scénario de crise. Le pire avait été envisagé. Un gigantesque bug dans la transmission des taux, 200 000 contribuables prélevés plusieurs fois, particulièrement les agents publics. L'entreprise retenue devait évidemment bricoler une stratégie anti-crise pour contenir les médias, toujours excités comme vous le savez, quitte même à débiner le ministre. Dans l'étude de cas imaginée par Bercy, on peut lire Le Parisien, admettons Le Parisien révèle que le ministre avait été prévenu de ces éventuels bugs et qu'il les a manifestement minorés. Alors face à la curiosité du canard, l'appel d'offres a finalement été abandonné. C'est toujours 160 000 euros d'économisés.
Autre scénario improbable, les sculptures volées de la basilique Saint-Michel à Bordeaux.
Incroyable histoire à lire dans Sud-Ouest. Histoire qui nous emmène de Bordeaux à Londres en passant par les États-Unis et Monaco. Tout a commencé il y a 35 ans. En plein mois d'août, des voleurs se laissent enfermer de nuit dans la basilique. Plutôt malins les voleurs. Avant de dérober les 7 albâtres du 15e siècle, ils les ont moulés et ils ont laissé sur place des répliques en plâtre. Résultat, eh bien, il faudra 9 ans pour repérer le vol. Et encore, hein, par hasard, il a fallu précisément le décès d'un antiquaire parisien. Les héritiers donnent une partie de ses biens pour régler la succession. Les experts des musées nationaux sont convoqués et une conservatrice du Louvre particulièrement affûtée détecte instantanément un élément du retable de Bordeaux classé monument historique. Du coup, bah, à Bordeaux, on vérifie. Les sculptures sont bien en place dans la chapelle Saint-Joseph, mais c'est vrai qu'il y fait très sombre. En fait, il suffit de gratter un peu et on s'aperçoit que ces sculptures sont fausses. Les deux panneaux de l'antiquaire sont aussitôt restitués. Un collectionneur suisse, consul des Philippines à Monaco, ça ne s'invente pas, en rend un troisième en 2006 quand il apprend qu'il s'agit d'un vol. Il en reste 4 dans la nature, repérés aux États-Unis. Alors tout le monde se mobilise, Alain Juppé, Laurent Fabius, alors au ministère des Affaires étrangères. Le FBI est mis sur le coup, en vain. Et pour cause, puisqu'entre-temps, les statues ont été vendues en Grande-Bretagne, ça voyage, ces choses-là. L'antiquaire britannique ne savait rien, bien sûr, puis il les a payées cher, ces statues, 550 000 francs de l'époque. Mais bon, il a accepté de les rétrocéder à la France et les pièces devraient donc retrouver leur place cette année, Yves, en 2019. Épilogue de l'histoire du rétable à trous, histoire sans morale, car on n'a jamais retrouvé le génial faussaire qui a trompé son monde pendant 9 ans.
Et si, on se mettait au sport cette année?
Oui, un grand classique des bonnes résolutions de début d'année. Généralement, les salles vous propose des abonnements d'un an et vous signez bien sûr parce que vous êtes déterminé, gonflé à bloc, plein de bonnes intentions, parce que vous vous dites une fois que j'aurai payé, je me sentirai obligé d'y aller, voilà. Sauf que pas du tout. Des chercheurs se sont penchés sur la question. Aux États-Unis, près de la moitié des nouveaux inscrits de janvier ne fréquentent plus la salle de sport les mois suivants. Seul un abonné sur 5 continuera à s'y rendre après septembre. Un abonné sur 5 seulement. En fait, en moyenne, les nouveaux inscrits se rendent 4 fois dans la salle de sport dans l'année et puis c'est tout. Et a priori, dans ce domaine, nous ne sommes sommes pas si différents des Américains. Alors on y laisse quelques centaines d'euros là où on aurait pu payer 4 séances. Mais en fait, figurez-vous que c'est très bien comme ça. Enfin, en tout cas, c'est très bien pour les salles, car sur le site Slate, on apprend que sans ces fameux abonnés absents, le modèle économique ne tiendrait pas. Si tout le monde allait vraiment faire du sport comme promis, les salles seraient totalement engorgées, et du coup, beaucoup moins attractives. Du coup, il faudrait augmenter les tarifs, ce qui serait encore moins attractif. Bref, merci à vous, sportifs de janvier, mêmes qui s'en jetteront un derrière la cravate, sans doute, dès le 10, parce que janvier au sec, il faut le dire, c'est un peu aride.
C'était la revue de presse d'Isabelle Choquet.
8h48.
Bon, je garde mes résolutions, je me les mets dans la poche, et dans quelques instants, je retrouve Laurent Gérard.